Sans perdre une seconde, le docteur Willett remplit les lampes avec le pétrole qui se trouvait dans la réserve qu'il avait remarqué un peu plus tôt lors de son premier passage. Quand la pièce fut à nouveau éclairée, il se mit à chercher une lanterne pour poursuivre son exploration. Car si ébranlé qu'il fût par les atrocités qu'il avait déjà vues, sa résolution n'en demeurait pas moins ferme. Il n'aurait pas de repos avant d'avoir trouvé pour quelle raison abominable Charles Ward était devenu fou. Ne trouvant pas de lanterne, il se rabattit sur la plus petite lampe, remplit ses poches de bougies et d'allumettes, sans oublier un petit bidon de pétrole qu'il garderait en réserve au cas où il découvrirait le laboratoire secret au-delà de cette effroyable salle avec son autel et ses innommables puits. Il lui fallut tout son courage pour reprendre cette véritable traversée, mais il savait que cela devait être fait. Heureusement, ni l'autel ni le puits qu'il avait ouvert n'étaient proches du mur qui entourait la caverne et dont il lui fallait à présent explorer les arcades mystérieuses. Willett retourna donc dans le hall puant, rempli de hurlements angoissants, en baissant la flamme de sa lampe pour ne surtout pas apercevoir, même de loin, l'autel diabolique ou le puits ouvert avec à côté la dalle percée qu'il avait laissée. La plupart des passages sombres menaient à de petites pièces, certaines vides et d'autres qui servaient de réserve, dans lesquelles il y avait une accumulation hétéroclite d'objets les plus bizarres. Dans l'une d'entre elles, il vit des paquets d'habits poussiéreux et moisis qui dataient, à n'en pas douter, de plus d'un siècle et demi. Dans une autre, il trouva des vêtements plus récents mais dépareillés, comme si on les avait amassés petit à petit en vue d'équiper une véritable troupe. Ce qui l'angoissait plus que tout étaient ces énormes vasques de cuivres incrustés de figures sinistres que l'on trouvait çà et là. Elles le répugnaient encore plus que les vases de plomb remplis de résidus infâmes qui répandaient une odeur si repoussante qu'on en oubliait la pestilence ambiante de la crypte. Il dut parcourir la moitié du mur circulaire avant d'arriver à un couloir analogue au précédent qui se terminait par plusieurs portes qu'il ouvrit une à une. Après avoir visité trois pièces de taille moyenne et de contenu inintéressant, il arriva dans une salle oblongue plus vaste, dont les cuves, les paillasses, les fours, les instruments scientifiques modernes, quelques livres et une quantité incroyable de bocaux et de jarres ne laissaient aucun doute sur sa fonction. C'était le laboratoire secret de Charles Ward et sans doute celui de Joseph Curwen bien avant lui. Après avoir allumé trois lampes qu'il trouva sur place prêtes à l'emploi, le docteur Willett examina attentivement la salle et son contenu. Les nombreux produits sur les étagères prouvaient que Ward s'intéressait principalement à la chimie organique. Le reste des équipements, qui comprenait entre autres une effrayante table de dissection, ne lui apprit rien de plus. Finalement, ce laboratoire tant recherché s'avéra décevant. Parmi les livres, il y avait un vieil exemplaire très abîmé du Borellus dans lequel Ward avait souligné le passage qui avait tellement perturbé le brave monsieur Merritt lors de sa visite à la ferme un siècle et demi plus tôt. Ce n'était malheureusement pas celui de Curwen qui avait disparu avec le reste de la bibliothèque au cours de l'attaque de 1762. Le laboratoire débouchait sur trois passages qu'il explora successivement. Deux d'entre eux menaient à de petites remises remplies de cercueils en plus ou moins bon état. Willett parvint à déchiffrer quelques-unes des plaques de cuivre qui y étaient encore fixées et en fut pris de tremblement. Il y avait aussi un grand stock de vêtements et plusieurs caisses neuves soigneusement clouées sur lesquelles il ne s'attarda pas. Il s'intéressa davantage aux quelques vestiges qui restaient de l'ancien laboratoire de Joseph Curwen. Ils avaient été très endommagés par les assaillants, mais on y reconnaissait encore la panoplie du parfait chimiste à l'époque du roi George III. Le troisième passage voûté conduisait à une chambre dont les murs étaient couverts d'étagères, avec au centre une table sur laquelle étaient posées deux lampes. Willett les alluma et commença à examiner les interminables rayonnages tout autour de la pièce. Ceux du haut étaient pour la plupart vides. Les autres étaient remplis de curieuses petites jarres de plomb de deux types. Les unes avaient des poignées et ressemblaient à des lessites. Les autres étaient des sortes de cruches avec une seule anse. Elles avaient tout un bouchon métallique et étaient gravées de symboles curieux. Le médecin nota que ces vases étaient classés rigoureusement. Les lessites se trouvaient d'un côté de la pièce, sous un panneau de bois marqué « Custodes ». Les cruches, quant à elles, étaient rangées de l'autre côté, sous un autre panneau où l'on pouvait lire « Materia ». À l'exception de ceux qui étaient vides, tous les récipients portaient une étiquette avec un numéro qui devait sans doute se rapporter à un catalogue. Willett comptait bien se mettre à sa recherche, mais dans l'immédiat, il voulait en savoir davantage sur le contenu de ces vases. Il en choisit au hasard quelques-uns des deux sortes et les ouvrit. Le résultat fut invariablement le même. Tous contenaient une fine poussière très légère, de couleur fade, quoique comportant plusieurs nuances. À ces teintes variées, qui seules semblaient différenciées légères, ne correspondait aucun classement. Il n'y avait pas non plus de distinction entre le contenu d'un lessite et celui d'une cruche. Une poudre bleutée pouvait très bien côtoyer une autre rosée et une couleur présente dans une cruche pouvait se retrouver dans un lessite. Ces poudres ressemblaient à du talc et ne présentaient absolument aucune adhésivité. Willett pouvait en prendre un peu dans sa main et la renverser dans la jarre sans qu'il ne subsiste la moindre trace sur sa paume. La signification des pancartes l'intrigua, de même que la raison pour laquelle les vases étaient si rigoureusement séparés des bocaux de verre du laboratoire. Custodes veut dire garde ou gardien en latin et materia, matière. Tout à coup, il se rappela avoir vu ce mot de gardien au cours de son enquête. C'était bien sûr dans la lettre adressée au docteur Allen par le soi-disant Edwin Hutchinson. La phrase exacte était « Il n'était nul besoin de conserver ces gardiens désœuvrés sous leur forme matérielle. Il n'aurait été qu'embarras en cas de problème comme vous ne le savez que trop bien. » Qu'est-ce que cela pouvait vouloir dire? Mais un instant, n'y avait-il pas dans cette affaire une autre référence à des gardes avec laquelle il n'avait pas fait le rapprochement en lisant la lettre de Hutchinson? Il y a longtemps, du temps où Charles Ward évoquait ouvertement ses travaux, il lui avait parlé du journal d'Eleazar Smith qui relatait ses nombreuses nuits de surveillance en compagnie de Whedon à la ferme de Kerven. Dans ses chroniques, il avait mentionné des bribes de conversations qu'il avait pu saisir avant que le sorcier ne déplace définitivement ses activités sous terre. Il y avait, rapportait-il, des conciliabules effrayants entre Kerven, des prisonniers et des gardes. Selon Hutchinson ou son avatar, ces gardes désœuvrés n'avaient nul besoin d'être conservés sous leur forme matérielle. Et si ce n'était sous cette forme ? Ce devait donc être sous la forme de celle que ces sorciers obtenaient à partir d'innombrables cadavres et squelettes. C'était donc cela que contenaient les lessites, les monstrueux résultats de rites païens, revenants asservis aux volontés de leurs maîtres qui pouvaient à loisir les invoquer par quelque incantation démoniaque, soit comme défenseurs, soit comme bourreaux qui les aideraient ensuite à en torturer d'autres moins soumis. Willett frissonna à la pensée qu'il avait pris un peu de cette poudre dans ses mains et eut soudain une envie impérieuse de fuir cette caverne avec ses rayonnages abjects et ses sentinelles silencieuses, mais peut-être vigilantes. C'est alors qu'il songea au vase de materia, des selles évidemment, mais puisque ce n'étaient pas des gardiens, des selles de quoi ? Seigneur, Seigneur, était-il possible que reposent là les restes de nos grands penseurs de toutes les époques, arrachés aux sépultures où on les croyait en repos par des profanateurs sacrilèges, soumis aux caprices et aux exhortations de fous qui voulaient extirper leur savoir à des fins délirantes, dont le résultat final mettrait en danger la civilisation, les lois de la nature, peut-être même le destin du système solaire, voire de l'univers, ainsi que Charles l'avait écrit. Et le docteur avait tenu leur cendre entre ses doigts. Plongé dans ses pensées, il remarqua cependant une petite porte située à l'extrémité de la pièce. Reprenant son calme, il s'en approcha et examina le signe gravé grossièrement au-dessus. Ce n'était qu'un symbole, mais il le remplit d'horreur. car un de ses amis, un homme assez morbide, quelque peu versé dans l'interprétation des rêves, l'avait tracé un jour sur un papier et lui en avait raconté la signification dans les sombres abîmes du sommeil. C'était le signe de Côte, que l'on voit parfois en rêve à l'entrée d'une tour noire isolée dans la pénombre, et Willett n'aimait pas cette histoire que Randolph Carter lui avait racontée. Une nouvelle odeur âcre qui flottait dans l'air, pourtant déjà bien empestée, l'arracha brusquement à ses réflexions. Elle était plus chimique qu'animale et provenait à l'évidence de la pièce située derrière la porte, une odeur qu'il reconnaissait à présent. Celle qui imprégnait les vêtements de Charles le jour de son internement. C'était donc ici qu'il se trouvait quand il avait été sommé de partir. Plus avisé que Joseph Curwen, il n'avait opposé aucune résistance. Willett, qui était bien déterminé à explorer chaque merveille cauchemardesque de ce royaume souterrain, prit la petite lampe et passa la porte. Une vague de terreur roula sur lui, mais il ne cédait à aucune panique, à aucune intuition. Il n'y avait rien ici qui pût lui faire de mal, rien qui l'empêcherait de percer l'abcès maléfique qui infectait son jeune patient. La pièce derrière la porte était de taille moyenne et ne comportait qu'une table, une chaise unique et deux groupes de machines étranges munies de roues et de crampons que Willett identifia au bout d'un moment. C'étaient des instruments de torture médiévaux. D'un côté de la porte, il y avait un râtelier rempli de fouets, au-dessus duquel on pouvait voir des étagères où s'entassaient des coupes à pied de plomb peu profondes, ressemblant à des kylix grecs. Sur la table, il y avait une lampe d'argan, un carnet, un crayon et deux lessites fermées qui venaient d'à côté, qu'on avait posées n'importe où en attente ou peut-être à la hâte. Willett alluma la lampe et examina le carnet afin de voir quelle note Ward avait pu laisser avant d'être interrompu. Mais il ne trouva rien d'autre que quelques notes griffonnées par Curwen qui ne l'éclairèrent pas vraiment. B n'est pas mort. S'est échappé dans les murs et a trouvé le lieu en dessous. Vu le vieux V dire le sabbaoth et apprendre la méthode. Et invoqué Yog-Sothoth par trois fois, et les renvoyer le lendemain. F voulait éliminer tous ceux qui savent comment invoquer ceux du dehors. La puissante lampe d'argan éclairait complètement la pièce. Le docteur remarqua qu'entre les deux instruments de torture situés dans les coins, le mur opposé à la porte comportait une série de patères où étaient accrochées des tuniques chiffonnées d'un jaunâtre poisseux. Beaucoup plus intéressants étaient les derniers murs, vides, mais recouvert de symboles mystiques et de formules grossièrement gravées dans la pierre. Le sol était également ciselé. Willett y reconnut aisément un pentagramme géant bordé de cercles d'environ 3 pieds de diamètre tracés à chaque angle de la pièce. Dans un des 4 cercles, non loin d'une tunique laissée là négligemment, il y avait un kylix identique à ceux qui se trouvaient au-dessus du râtelier au fouet. Juste à la périphérie, une cruche provenant des étagères de la pièce précédente portait le numéro 118. Elle était ouverte et vide, mais le médecin constata horrifié que le kylix ne l'était pas. Dans la coupe assez plate, heureusement préservée par l'absence du moindre courant d'air dans cette caverne profonde et isolée, il y avait un peu d'une poudre sèche, verdâtre et phosphorescente qui devait provenir de la jarre vide. Willett faillit chanceler en mettant bout à bout les éléments de la scène et l'historique qu'il en connaissait déjà. Les fouets et les instruments de torture, la poussière et les sels dans les vases materia, les lessites custodes, les formules sur le mur, le carnet de notes, les indices dans les lettres, les doutes et les suppositions qui tourmentaient les amis de Charles Ward et ses parents, et leurs regards entendus, tout se mit à tournoyer, en entraînant Willett dans un tourbillon d'horreur, alors qu'il fixait la poussière verdâtre dans le kylix de plomb. Il finit malgré tout par se reprendre et entreprit d'étudier les formules incrustées sur les murs. À en juger par les taches et l'encrassement des lettres, elles avaient dû être gravées du temps de Joseph Curwen et auraient, au premier coup d'œil, paru familières à quiconque connaissait l'histoire du sorcier ou plus généralement celle de la magie noire. Le médecin en reconnut immédiatement une, celle que Madame Ward avait entendu psalmodier par son fils ce jour maudit du Vendredi Saint un an auparavant, celle-là même qu'une éminente autorité lui avait dit être une imprécation terrible à des dieux inconnus tapis dans un autre monde. Elle n'était pas orthographiée comme Madame Ward l'avait retranscrite, ni d'ailleurs comme on pouvait la trouver dans les pages interdites d'Eliphas Lévi qu'un expert lui avait montré naguère. Mais c'était indubitablement le même texte, et des mots tels que Sabaoth, Metraton, Almonzin, Zariatnamik firent frémir de terreur le pauvre médecin, à présent à deux pas d'une abomination cosmique. Elle se trouvait sur le mur de gauche en entrant dans la pièce, mais le mur de droite était également recouvert d'inscriptions mystérieuses. Willett ressentit une impression de déjà-vu en lisant une paire de formules qu'il avait remarquées dans le carnet de la bibliothèque secrète. C'était approximativement les mêmes que dans les gribouillis de Ward avec la tête et la queue de dragon, mais l'orthographe en était très différente, comme si Joseph Curwen avait eu une autre façon de transcrire les sons, à moins que des recherches plus récentes n'aient affiné ces imprécations en des variantes plus puissantes et plus élaborées. Le docteur Willett tenta de faire le lien entre la version gravée au mur et celle qui tournait sans arrêt dans sa tête, mais c'était trop compliqué, alors que la formule qu'il connaissait commençait par « Yaing Nga Yoxotot », celle du mur débutait par « Aying Nga Yoxotota », ce qui, selon lui, compliquait la prononciation du second mot. La version la plus récente était si bien gravée dans sa mémoire que cette différence le perturba et il commença machinalement à la psalmodier en essayant de la faire coïncider avec celle plus ancienne inscrite sur le mur. Sa voix, soudain étrange et menaçante, résonnait dans ces abysses sacrilèges. Ses intonations s'accordaient à une mélopée monotone, peut-être à cause de malédictions passées, peut-être à l'instar de ce gémissement impie dont les rythmes inhumains s'élevaient et retombaient au loin dans la pestilence et la nuit. « Yang Nga Yoxotot Hil Gep Phaitrodog Wa » « Yang Nga Yoxotot Hil Gep Phaitrodog Wa » « Yang Nga Yoxotot Hil Gep Phaitrodog Wa » « Yang Nga Yoxotot Hil Gep Phaitrodog Wa » Mais quel était ce vent glacial qui venait de se lever? Les lampes s'étaient mises à crépiter et l'obscurité se faisait si dense que les lettres au mur disparurent presque complètement. Il y avait de la fumée aussi et une odeur âcre qui couvrait même la puanteur des puits, une odeur qu'il avait déjà sentie, mais plus forte et plus prégnante. Il se tourna pour faire face à la pièce et remarqua que le kylix déposé au sol qui contenait l'immonde poudre verdâtre émettait à présent un nuage vert tirant sur le noir d'une densité et d'un volume incroyables. Cette poudre, Seigneur, venait de l'étagère Materia. Que lui arrivait-il et qu'est-ce qu'il avait déclenché? La formule qu'il avait fredonnée, la première des deux, celle à la tête de dragon? Dieu tout-puissant, serait-ce... Le docteur vacilla et sa tête se remplit en désordre des souvenirs de ce qu'il avait lu, entendu et vu des effroyables affaires Curwen et Ward. Je vous le dis encore, n'invoquez personne que vous ne puissiez renvoyer, ce par quoi je veux dire personne qui pourrait à son tour appeler quelque chose contre laquelle vous seriez impuissant. Seigneur miséricordieux, quelle est donc cette forme qui se dessine derrière la fumée ?